Chapitre 3. La nuit se passa en sacrifice. Les temples furent ornés de festons comme pour les grandes fêtes de la patrie. Et aussitôt, les cérémonies sacrées achevées, quoiqu'il fût à peine 1 heure du matin, la foule se précipita vers le gymnase, tant était grand l'empressement de revoir les jeux qui rappelaient les vieux et beaux jours de la Grèce. Amyclès était l'un des 8 juges élus. En cette qualité, il avait sa place réservée en face de celle du proconsul romain. Il arriva donc au moment où les jeux allaient commencer. Il trouva à la porte Sporus, qui venait y rejoindre son maître, et à qui les gardes refusaient l'entrée parce qu'à son teint blanc, à ses mains délicates, à sa démarche indolente, il le prenait pour une femme. Or, une ancienne loi remise en vigueur condamnait à être précipitée d'un rocher toute femme qui assisterait aux exercices de la course et de la lutte où les athlètes combattaient nus. Le vieillard répondit de Sporus et l'enfant, arrêté un instant, put rejoindre son maître. Le gymnase était pareil à une ruche. Outre les premiers arrivés, assis sur les gradins et pressés les uns contre les autres, tout espace était rempli. Les vomitoires semblaient fermés d'une muraille de tête. Le couronnement de l'édifice était surmonté de tout un rang de spectateurs debout, se soutenant les uns aux autres, et dont le seul point d'appui était de 10 pieds en 10 pieds les poutres dorées auxquelles se tendait le velarium. Et cependant, beaucoup bourdonnaient encore, comme des abeilles aux portes de cet immense vaisseau dans lequel venait non seulement de disparaître la population de Corinthe, mais encore les députés du monde entier qui accouraient à ces fêtes. Quant aux femmes, on les voyait de loin aux portes et sur les murailles de la ville, où elles attendaient que fût proclamé le nom du vainqueur. À peine Amyclès fut-il assis, que le nombre des juges se trouvant complet, le proconsul se leva et annonça au nom de César Néron, empereur de Rome et maître du monde, que les jeux étaient ouverts. De grands cris et de grands applaudissements accueillirent ces paroles, et tous les yeux se tournèrent vers le portique où attendaient les lutteurs. 7 jeunes gens sortirent et s'avancèrent vers la tribune du proconsul. 2 des lutteurs seulement étaient de Corinthe, et parmi les 5 autres, il y avait un Thébain, un Syracusain, un Sybarite et 2 Romains. Les 2 Corinthiens étaient 2 frères jumeaux. Ils s'avancèrent, les bras enlacés, vêtus d'une tunique pareille, et si semblables l'un à l'autre de taille, de tournure et de visage, que tout le cirque battit des mains à l'aspect de ces 2 ménechmes. Le Thébain était un jeune berger qui, gardant ses troupeaux près du mont Citeron, avait vu descendre un ours, s'était jeté au-devant lui et, sans armes contre ce terrible antagoniste, s'était pris corps à corps avec lui et l'avait étouffé dans la lutte. En souvenir de cette victoire, il s'était couvert les épaules de la peau de l'animal vaincu, dont la tête, lui servant de casque, encadrait de ses dents blanches son visage bruni par le soleil. Le Syracusain avait donné de sa force une preuve non moins extraordinaire. Un jour que ses compatriotes faisaient un sacrifice à Jupiter, le taureau, mal frappé par le sacrificateur, s'élança au milieu de la foule, tout couronné de fleurs, tout paré de ses bandelettes, et il avait déjà écrasé sous ses pieds plusieurs personnes, lorsque le Syracusain le saisit par les cornes, et levant l'une et baissant l'autre, le fit tomber sur le flanc et le maintint sous lui, comme un athlète vaincu jusqu'au moment où un soldat lui enfonça son épée dans la gorge. Enfin, le jeune Sybarite, qui avait lui-même ignoré longtemps sa force, en avait reçu la révélation d'une manière non moins fortuite. Couché avec ses amis sur des lits de pourpre autour d'une table somptueuse, il avait tout à coup entendu des cris. Un char, emporté par 2 chevaux fougueux, allait se briser au premier angle de la rue. Dans ce char était sa maîtresse. Il s'élança par la fenêtre, saisit le char par derrière. Les chevaux arrêtés tout à coup se cabrèrent, l'un des 2 tomba renversé, et le jeune homme reçut dans ses bras sa maîtresse évanouie, mais sans blessure. Quant aux 2 Romains, L'un était un athlète de profession connu par de grands triomphes, l'autre était Lucius. Les juges mirent 7 bulletins dans une urne. 2 de ces bulletins étaient marqués d'un A, 2 d'un B, 2 d'un C, enfin le dernier d'un D. Le sort devait donc former 3 couples et laisser un 7e athlète pour combattre avec les vainqueurs. Le proconsul mêla lui-même les bulletins, puis les 7 combattants s'avancèrent, en prirent chacun un, le déposèrent entre les mains du président des Jeux. Celui-ci les ouvrit, les uns après les autres, et les appareilla. Le hasard voulut que les 2 Corinthiens eussent chacun un A, le Thébain et le Syracusain chacun un B, le Sybarite et l'athlète les 2 C, et Lucius le D. Les athlètes, ignorant encore dans quel ordre le sort les avait désignés pour combattre, se déshabillèrent à l'exception de Lucius, qui, devant entrer en lice le dernier, resta enveloppé de son manteau. Le proconsul appela les 2 A. Aussitôt, les 2 frères s'élancèrent du portique et se trouvèrent en face l'un de l'autre. La surprise leur arracha un cri auquel l'assemblée répondit par un murmure d'étonnement. Puis ils restèrent un instant immobiles et hésitants. Mais ce moment n'eut que la durée d'un éclair, car ils se jetèrent aussitôt dans les bras l'un de l'autre. L'amphithéâtre éclata tout entier dans un unanime applaudissement, et au bruit de cet hommage rendu à l'amour fraternel, les 2 beaux jeunes gens se reculèrent en souriant pour laisser le champ libre à leurs rivaux. Et, pareils à Castor et à Pollux, appuyés au bras l'un de l'autre, d'acteurs qu'ils croyaient être, ils devinrent spectateurs. Ceux qui devaient figurer les seconds se trouvèrent alors être les premiers. Le Thébain et le Syracusain s'avancèrent donc à leur tour. Le vainqueur d'ours et le dompteur de taureaux se mesurèrent des yeux, puis s'élancèrent l'un sur l'autre. Un instant, leurs 2 corps réunis emboîtés eurent l'aspect d'un trot noueux et informe, capricieusement modelé par la nature, qui tout à coup roula, déraciné comme par un coup de foudre. Pendant quelques secondes, on ne put au milieu de la poussière rien distinguer, tant les chances paraissaient égales pour tous deux, et si rapidement chacun des athlètes se retrouvait tantôt dessus, tantôt dessous. Enfin, le Thébain finit par maintenir son genou sur la poitrine du Syracusain, et lui entourant la gorge de ses 2 mains comme d'un anneau de fer, il le serra avec une telle violence que celui-ci fut obligé de lever la main en signe qu'il s'avouait vaincu. Des applaudissements unanimes qui prouvaient avec quel enthousiasme les Grecs assistaient à ce spectacle saluèrent le dénouement de ce premier combat. Et ce fut à leur bruit 3 fois renaissant que le vainqueur vint se placer sous la loge du proconsul et que son antagoniste, humilié, rentra sous le portique, d'où sortit aussitôt la dernière couple de combattants qui se composait du sybarite et de l'athlète. Ce fut une chose curieuse à voir lorsqu'ils eurent dépouillé leurs vêtements et tandis que les esclaves les frottaient d'huile, que ces 2 hommes, d'une nature opposée et offrant les 2 plus beaux types de l'Antiquité, celui de l'Hercule et celui de l'Antinoüs, l'athlète avec ses cheveux courts et ses membres bruns et musculeux, le sybarite avec ses longs anneaux ondoyants et son corps blanc et arrondi. Les Grecs, ces grands adorateurs de la beauté physique, ces religieux sectateurs de la forme, ces maîtres en toute perfection, laissèrent échapper un murmure d'admiration qui fit en même temps relever la tête aux 2 adversaires. Leurs regards pleins d'orgueil se croisèrent comme 2 éclairs et, sans attendre ni l'un ni l'autre que cette opération préparatoire fût complètement achevée, ils s'arrachèrent aux mains de leurs esclaves et s'avancèrent au-devant l'un de l'autre. Arrivés à la distance de 3 ou 4 pas, ils se regardèrent avec une nouvelle attention, et chacun sans doute reconnut dans son adversaire un rival digne de lui, car les yeux de l'un prirent l'expression de la défiance et les yeux de l'autre celle de la ruse. Enfin, d'un mouvement spontané et pareil, ils se saisirent chacun par les bras, appuyèrent leur front l'un contre l'autre, et pareil à deux taureaux qui luttent, tentèrent le premier essai de leur force en essayant de se faire reculer. Mais tous deux restèrent debout et immobiles à leur place, pareils à des statues dont la vie ne serait indiquée que par le gonflement progressif des muscles qui semblaient prêts à se briser. Après une minute d'immobilité, tous deux se rejetèrent en arrière, secouant leur tête inondée de sueur et respirant avec bruit comme des plongeurs qui reviennent à la surface de l'eau. Ce moment d'intervalle fut court. Les deux ennemis en vinrent de nouveau aux mains et cette fois, ils se saisirent à bras-le-corps. Mais, soit ignorance de ce genre de combat, soit conviction de sa force, le sybarite donna l'avantage à son adversaire en se laissant saisir sous les bras. L'athlète l'enveloppa aussitôt et lui fit perdre terre. Cependant, en ployant sous le poids, il fit en chancelant trois pas en arrière, et dans ce mouvement, le sybarite étant parvenu à toucher le sol du pied, il reprit toutes ses forces, et l'athlète déjà ébranlé tomba dessous. Mais à peine eut-on le temps de lui voir toucher le sol, qu'avec une force et une agilité surnaturelles, il se retrouva debout de sorte que le sybarite ne se releva que le second. Il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Aussi les deux adversaires recommencèrent-ils la lutte avec un nouvel acharnement et au milieu d'un silence profond. On eût dit que les 30 000 spectateurs étaient de pierre, comme les degrés sur lesquels ils étaient assis. De temps en temps seulement, lorsque la fortune favorisait l'un des lutteurs, on entendait un murmure sourd et rapide s'échapper des poitrines et un léger mouvement faisait onduler toute cette foule comme des épis sur lesquels glisse un souffle d'air. Enfin, une seconde fois, les lutteurs perdirent pied et roulèrent dans l'arène, mais cette fois, ce fut l'athlète qui se trouva au-dessus, et cependant ce n'eût été qu'un faible avantage s'il n'eût joint à sa force tous les principes d'adresse de son art. Grâce à eux, il maintint le sybarite dans la position dont lui-même s'était si promptement tiré. Comme un serpent qui étouffe et broie sa proie avant de la dévorer, il entrelaça ses jambes et ses bras aux jambes et aux bras de son adversaire avec une telle habileté qu'il parvint à suspendre tous ses mouvements. Et alors, lui appuyant le front contre le front, il le contraignit de toucher la terre du derrière de la tête, ce qui équivalait pour les juges à l'aveu de la défaite. De grands cris retentirent, de grands applaudissements se firent entendre. Mais, quoique vaincu, certes, le sybarite put en prendre sa part. Sa défaite avait touché le si près à la victoire que nul n'eut l'idée de lui en faire une honte. Aussi se retira-t-il lentement sous le portique, sans rougeur et sans embarras, ayant perdu la couronne, et voilà tout. Restaient donc deux vainqueurs, et Lucius, qui n'avait pas lutté et devait lutter contre tous deux. Les yeux se tournèrent vers le Romain, qui, calme et impassible pendant les combats précédents, les avait suivis du regard, appuyés contre une colonne et enveloppés de son manteau. C'est alors seulement qu'on remarqua sa figure douce et efféminée, ses longs cheveux blonds et la légère barbe dorée qui lui couvrait à peine le bas du visage. Chacun sourit en voyant ce faible adversaire qui venait avec tant d'imprudence disputer la palme au vigoureux Thébain et à l'habile athlète. Lucius s'aperçut de ce sentiment général au murmure qui courait par toute l'assemblée et, sans s'en inquiéter ni daigner y répondre, il fit quelques pas en avant et laissa tomber son manteau. Alors on vit, supportant cette tête apollonienne, un cou vigoureux et des épaules puissantes. Et, chose plus bizarre encore, tous ces corps blancs dont la peau eût fait honte à une jeune fille de Circassie, mouchetés de taches brunes pareilles à celles qui couvrent la fourrure fauve de la panthère. Le Thébain regarda insoucieusement ce nouvel ennemi, mais l'athlète, visiblement étonné, recula de quelques pas. En ce moment, Sporus parut et versa sur les épaules de son maître un flacon d'huile parfumée qu'il lui étendit par tout le corps à l'aide d'un morceau de pourpre. C'était au Thébain à lutter le premier. Il fit donc un pas vers Lucius, exprimant son impatience de ce que ses préparatifs duraient si longtemps. Mais Lucius étendit la main de l'air du commandement pour indiquer qu'il n'était pas prêt, et la voix du proconsul fit entendre aussitôt ce mot « Attends ». Cependant, le jeune Romain était couvert d'huile et il ne lui restait plus qu'à se rouler dans la poussière du cirque, ainsi que c'était l'habitude de le faire. Mais au lieu de cela, il mit un genou en terre et Sporus lui vida sur les épaules un sac rempli de sable recueilli sur les rives du Chrysochoas et qui était mêlé de paillettes d'or. Cette dernière préparation achevée, Lucius se releva et ouvrit les deux bras en signe qu'il était prêt à lutter. Le Thébain avança plein de confiance et Lucius l'attendit avec tranquillité. Mais à peine les mains rudes de son adversaire eurent-elles effleuré son épaule, qu'un éclair terrible passa dans ses yeux et qu'il jeta un cri pareil à un rugissement. En même temps, il se laissa tomber sur un genou et enveloppa de ses bras robustes les flancs du berger au-dessous des côtes et au-dessus des hanches. Puis, nouant en quelque sorte ses mains derrière le dos de son adversaire, il lui pressa le ventre contre sa poitrine et tout à coup, il se releva tenant le colosse entre ses bras. Cette action fut si rapide et si adroitement exécutée que le Thébain n'eut ni le temps ni la force de s'y opposer et se trouva enlevé du sol, dépassant de la tête de son adversaire et battant l'air de ses bras qui ne trouvaient rien à saisir. Alors les Grecs virent se renouveler la lutte d'Hercule et d'Anté. Le Thébain appuya ses mains aux épaules de Lucius et se raidissant de toute la force de ses bras, il essaya de rompre la chaîne terrible qui l'étouffait, mais tous ses efforts furent inutiles. En vain enveloppa-t-il à son tour les reins de son adversaire de ses deux jambes comme d'un double serpent. Cette fois, ce fut Laocoon qui maîtrisa le reptile. Plus les efforts du Thébain redoublaient, plus Lucius semblait serrer le lien dont il l'avait garrotté. Et, immobile à la même place, sans un seul mouvement apparent, la tête entre les pectoraux de son ennemi, comme pour écouter sa respiration étouffée, pressant toujours davantage, comme si sa force croissante devait atteindre un degré surhumain, il resta ainsi plusieurs minutes, pendant lesquelles on vit le Thébain donner les signes visibles et successifs de l'agonie. D'abord, une sueur mortelle coula de son front sur son corps, lavant la poussière qui le couvrait, puis son visage devint pourpre, sa poitrine râla, ses jambes se détachèrent du corps de son adversaire, ses bras et sa tête se renversèrent en arrière, enfin un flot de sang jaillit impétueusement de son nez et de sa bouche. Alors Lucius ouvrit les bras, et le Thébain évanoui tomba comme une masse à ses pieds. Aucun cri de joie, aucun applaudissement n'accueillit cette victoire. La foule oppressée resta muette et silencieuse. Cependant, il n'y avait rien à dire. Tout s'était passé dans les règles de la lutte. Aucun coup n'avait été porté et Lucius avait franchement et loyalement vaincu son adversaire. Mais pour ne point se manifester par des acclamations, l'intérêt que les assistants prenaient à ce spectacle n'en était pas moins grand. Aussi, lorsque les esclaves eurent enlevé le vaincu toujours évanoui, Les regards qui l'avaient suivi se reportèrent aussitôt sur l'athlète qui, par la force et l'habileté qu'il avait montrée dans le combat précédent, promettait à Lucius un adversaire redoutable. Mais l'attente générale fut étrangement trompée, car au moment où Lucius se préparait pour une seconde lutte, l'athlète s'avança vers lui d'un air respectueux, et mettant un genou en terre, il leva la main en signe qu'il s'avouait vaincu. Lucius parut regarder cette action et voir cet hommage sans aucun étonnement, car, sans tendre la main à l'athlète, sans le relever, il jeta circulairement les yeux autour de lui, comme pour demander à cette foule étonnée s'il était dans ses rangs un homme qui osa lui contester sa victoire. Mais nul ne fit un geste, nul ne prononça une parole, et ce fut au milieu du plus profond silence que Lucius s'avança vers l'estrade du proconsul qui lui tendit la couronne. En ce moment seulement, quelques applaudissements éclatèrent, mais il fut facile de reconnaître, dans ceux qui donnaient cette marque d'approbation, les matelots du bâtiment qui avaient transporté Lucius. Et cependant, le sentiment qui dominait cette foule n'était point défavorable au jeune Romain. C'était comme une terreur superstitieuse qui s'était répandue sur cette assemblée. Cette force surnaturelle